Christine Lanier, Art et Affinité. Les esquisses de cette pièce, quantique à la mémoire de Benjamin Britten, étaient déjà achevées lorsque j'ai appris par hasard, en écoutant la radio, la mort de Britten. En guise d'hommage, la radio a diffusé plusieurs de ses œuvres musicales qui nous bouleversèrent, ma femme et moi, par leur délicatesse et leur transparence, d'où sourdait une atmosphère évoquant les ballades de Guillaume de Machaut. C'est à ce moment-là que s'est conforté en moi le désir d'achever cette œuvre et de la dédier à Britten. J'avais eu depuis longtemps l'envie de le rencontrer et de le connaître, mais il me fallait désormais renoncer à cette idée. Arvo Pärt, compositeur estonien contemporain. Le Cantus de 1976 pour orchestre à cordes et cloches est ce qu'on appelle en musique un tombeau, une pièce écrite en hommage à un musicien décédé que l'on admire. De fait, Pärt utilise tous les outils du tombeau. La cloche symbolise le glas. Elle revient de façon inexorable, nous rappelant la mort. L'utilisation de gamme descendante est également une figure emblématique des tombeaux. La gamme descendante étant de façon transparente, une métaphore de la mise au tombeau ou de la descente vers le monde souterrain. Il y a 5 lignes mélodiques ou 5 voix dans le cantus. Le compositeur explique que, je le cite, « les 5 interventions successives deviennent à chaque répétition plus longues jusqu'à ce que toutes les voix, comme dans une cadence, se retrouvent à la maison. Ainsi, chaque instrument entre-t-il de manière décalée. Violon 1, violon 2, alto, violoncelle, contrebasse. Chaque instrument entre lorsque le précédent a fini son premier motif et les instruments les plus aigus descendent plus rapidement que les instruments les plus graves. La construction de la pièce est rigoureuse, mathématique. Cependant, ajoute Pärt, qui parle souvent par métaphore, il s'agit d'une oscillation qui laisse naître comme une résonance.
Thank you.
Bonjour. Un cantus in memory of Benjamin Britten, interprété par Dennis Russell Davis chez ECM en 1984. Depuis la fin du Moyen Âge, composer une pièce en hommage à un maître est une tradition. Et cette plainte sur la mort d'un compositeur, ce cantus, ouvre l'épilogue d'un cycle de 4 émissions consacrées à Arvo Pärt en lien avec la rétrospective du peintre allemand Gerhard Richter à la Fondation Louis Vuitton qui vient de s'achever. Plusieurs œuvres de Richter s'inscrivent également dans une tradition, celle de la peinture d'histoire que l'on appelait autrefois le grand genre. Ou du moins ce sont des peintures en prise avec l'histoire, que ce soit l'histoire de l'Allemagne après 1945 ou l'histoire contemporaine. Ainsi, les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis font-ils l'objet d'une représentation en peinture par l'artiste allemand? La rétrospective s'est achevée sur le dernier grand cycle peint, Auschwitz-Birkenau, peint à l'huile en 2014 à partir de 4 photographies prises clandestinement. Je rappelle que le rapport entre la peinture et la photographie est le creuset de l'œuvre de Richter. Avant d'évoquer 4 œuvres de Gerhard Richter en lien avec l'histoire qui est le sujet de cette émission, je voudrais revenir sur 2 points. Gerhard Richter, nous l'avons vu, peint ses œuvres figuratives d'après des photos. Ce sont ses images sources, que ce soit des photos d'amateurs prises sans intention formelle, ou bien des photos anonymes trouvées dans les médias, les journaux, revues, archives policières, etc. Question. La prise en compte des médias, l'intégration des médias dans la peinture d'histoire, par un artiste qui s'appuie sur leur force documentaire, donne-t-elle pour autant à ses peintures le statut de témoignage historique? Autre question. Lui assure-t-elle une position de neutralité, ce qu'il semble rechercher? D'autre part, on observe que Richter laisse toujours passer du temps, voire des années, entre les événements et leur traduction en peinture. Autre question. Un tableau d'histoire doit-il être à l'heure comme les médias? Donc c'est une rétrospective qui aura eu le mérite de soulever, me semble-t-il, de multiples questions sur la relation entre les œuvres d'un peintre contemporain et l'histoire. En musique, nous retrouverons Steve Reich dans la seconde partie de cette émission et son extraordinaire utilisation de témoignages historiques authentiques dans le second mouvement de Different Trains, des trains différents. Alors, je remercie Jean-Édouard, le musicien Stéphane, et je remercie beaucoup Claudia qui réalise cette émission. Première peinture d'histoire, Horst avec chien, que vous avez sur l'écran de rc.fr, peinture à l'huile sur toile, 1965, ou comment la petite histoire rencontre la grande histoire, l'histoire avec un H majuscule. Horst est le père de Gerhard Richter. Et son père est représenté comme un homme probablement un peu ivre. Il porte une écharpe autour du cou, tient un petit chien sous le bras gauche. Et je cite Richter, « Je l'ai peint en personnage pitoyable, éméché et l'air idiot, avec ce chapeau de femme et sa chevelure de clown. Ce tableau me désole aujourd'hui plus que jamais. Le père de Richter était professeur. Au début de la construction de l'Allemagne nazie, il fut obligé d'adhérer au parti et envoyé d'abord sur le front à l'est, puis à l'ouest. Il fut capturé par les Alliés. Richter dit que lorsque son père est revenu, c'était un total étranger pour lui. Et comme énormément de pères à l'époque, il ne parvint jamais à retrouver sa place dans la société. Ça a été difficile émotionnellement et il s'est suicidé en 66. Le tableau est réalisé en 65, alors que Gerhard Richter était déjà passé à l'ouest en emmenant seulement avec lui un album de photos de famille. Ces portraits de famille, vous vous souvenez de l'oncle Rudy, de la tante Marianne, furent peints 20 ans après la frontière temporelle historique que fut l'année 1945 en Allemagne. Et ils fonctionnent, me semble-t-il, comme des témoignages indirects. Par son histoire personnelle, Richter s'efforce d'évoquer une échelle un peu plus grande. Son histoire est celle de beaucoup de familles allemandes et il évoque le sujet de la guerre de manière un peu souterraine, sous-jacente. En d'autres termes, dans les années 60, il réactive des images enfouies et il les partage en les montrant publiquement par le biais d'expositions. Donc il affronte de vrais souvenirs, tout en essayant d'adopter une attitude de neutralité grâce à la technique du floutage. Le flou et la recherche de neutralité sont intimement liés. Les photos étaient en noir et blanc, donc sa peinture est en noir et blanc. Mais le flou, c'est lui qui l'invente. Je vous rappelle, il attend que la matière picturale, l'huile, sèche un peu. Et puis avec un pinceau plat et large, il vient balayer la surface de la toile, dissoudre les formes. Le flou rappelle le fonctionnement de la mémoire dans cette peinture d'histoire. C'est une espèce de mise à distance, comme lorsqu'on ne se souvient plus très bien. Il rend les formes, les corps un peu flottants dans l'espace. Mais ça vous force à réfléchir, à essayer de trouver ce qui se cache sous le flou, derrière. Un dernier point, un peu plus délicat. En 1965, le fait de peindre un parent proche comme l'oncle Rudy, avec ce titre familier qui dévoile le lien de parenté, l'oncle Rudy portant l'uniforme des coupables de la génération précédente. C'était une façon, me semble-t-il, de soulever la responsabilité collective, soulever la question de la responsabilité collective et de la culpabilité individuelle des Allemands. Et le rôle du floutage, ce fut alors d'empêcher probablement toute forme de provocation. Vous allez entendre un extrait du Magnificat d'Arvo Pärt pour chœur mixte a cappella, écrit en 1989. À l'origine, la pièce avait été composée pour un chœur d'enfants. C'est une prière à la Vierge. Une pièce souvent jouée. D'ailleurs, Arvo Pärt est le compositeur contemporain le plus joué de par le monde, le plus enregistré. Une pièce apparemment transparente, très légère, mais selon Nora Pärt, son épouse, elle dissimule de redoutables difficultés en termes d'intonation, d'interprétation. Le risque, voyez-vous, c'est que ça sonne trop séraphique, trop éthéré, et que le fondu des voix d'hommes et de femmes ne vienne brouiller la compréhension des mots. Or, on sait qu'Arvo Pärt attache une grande attention au texte. Alors, j'ai choisi une version expressive. Contrairement à beaucoup de versions qui sont excellentes par ailleurs, mais très chorales. Celle-ci donne l'impression de n'entendre que quelques chanteurs, individuellement, comme dans la musique ancienne avec un chanteur par voix. Il n'y a donc pas de recherche de fondu entre les voix graves, les basses des hommes et les voix aiguës des femmes, et ceci me semble parfaitement assumé. Pas de recherche de fondu, mais par-delà le recueillement, vous allez percevoir l'affirmation inquiète du mystère de l'incarnation, une sorte de tension de plus en plus ardente. Le chant évolue lentement, comme autour d'un axe, avec des jaillissements suivis de reflux, c'est comme une arche qui se construit lentement, et il en émane une profonde ferveur. Magnificat anima mea dominum. Mon âme exalte le Seigneur, interprété par The Tallis Scholars, dirigé par Peter Phillips, enregistré en 2015. Second tableau d'histoire, le cycle 18 octobre 1977, conservé au MoMA de New York. Peinte 10 ans après les faits, la série, se référant aux membres de la bande à Bader, regroupe 15 toiles peintes à l'huile en noir et blanc, d'après des photographies de presse et des archives policières. Ce sont les sources documentaires. Ce cycle documente des événements tragiques, des actes terroristes, en lien direct avec l'histoire nationale de l'Allemagne des années 70. Alors, je ne reviendrai pas sur le contexte des événements dont j'ai parlé dans la troisième émission. Lors des premières présentations du cycle au public, les réactions furent vraiment hostiles en Allemagne. Gerhard Richter fut soupçonné de complaisance, en raison surtout du choix des événements relatifs à la fraction Armée Rouge. Depuis ses débuts, avec un faux portrait de jeunesse de la journaliste Ulrike Meinhof, que Richter rajeunit, puis il passe par l'arrestation très floutée des membres de la bande à Bader, puis il peint les corps morts dans leurs cellules, et enfin les funérailles de trois des suicidés. La question du suicide collectif ou assassinat d'État, le 18 octobre 77, qui est le titre général de la série, n'ayant jamais été résolue. La première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi est-ce que Gerhard Richter ne peint pas aussi les victimes des terroristes? Observons un des trois volets que vous avez sur l'écran de RC.fr montrant Gudrun Enslin, intitulé « Confrontation ». Les trois volets sur les 15 peintures vont fonctionner comme une séquence filmée. Volet 1, elle se rapproche de l'objectif qui semble avoir du mal à faire le point. Elle est vraiment très floutée. Volet 2, elle est presque de face. C'est celle que vous voyez et elle sourit. Elle a cet étrange sourire un peu évanescent, comme si elle était étonnée. Volet 3, elle s'éloigne et c'est alors qu'on la voit plus nettement. Donc la peinture utilise ici les moyens du cinéma. Un autre tableau intitulé « Pendu » que vous avez également sur l'écran de rc.fr montre Gudrun Enslin pendue à la fenêtre de sa cellule à l'aide d'un câble électrique de haut-parleur. Le corps est extrêmement flouté. Il y a la volonté de peindre la mort et d'empêcher toute forme de voyeurisme. Tout se passe comme si Richter avait voulu, tout au long du cycle, préserver la dignité humaine des terroristes. J'observe que la peinture est extrêmement lisse, également presque comme s'il voulait que le tableau ressemble à une photographie. Ce que je peux dire à ce stade, c'est que le cycle ne fait pas appel à l'émotion du spectateur, mais au contraire, il frappe, comment dirais-je, par une sorte de neutralité affichée, une forme d'indifférenciation, même de froideur. Il n'y a pas de pathos. Alors, s'agit-il d'une réactualisation de la peinture d'histoire? Oui, sans aucun doute, mais différemment. La peinture d'histoire ancienne avait un but didactique. On parlait d'exemplum virtutis, un exemple de vertu. Je veux dire qu'il y avait une valeur moralisante dans cette peinture. Et elle faisait l'objet d'une commande. De multiples tableaux d'histoire peints au XIXe siècle, par exemple, sont des œuvres de propagande. Je pense à un immense peintre, le chef de file du néoclassicisme, David. Les tableaux de David mentent. On pourrait dire cela. Je pense au Bonaparte touchant les pestiférés de Jaffa du baron Gros 1804. Il ment. Vous pensez bien que jamais Bonaparte n'a touché du doigt les bubons d'un pestiféré. Donc cela semble contradictoire avec la neutralité recherchée et ou affichée de Gerhard Richter. Je cite Richter. C'est autre chose qui m'intéresse. C'est le pourquoi d'une idéologie si lourde de conséquences. Il parle de la bande à Bader. Pourquoi avons-nous des idéologies? Est-ce une donnée inéluctable, inhérente à la nature humaine? Ou une vaine fantasmagorie qui ne fait qu'assujettir les hommes et menacer leur existence? En d'autres termes, si je comprends bien, toute idéologie risque de mener à une forme de radicalisation et au choix de la violence. Les membres de la fraction Armée Rouge sont morts violemment, ce qui ne fait d'eux, dans la série de peintures d'histoire de Gerhard Richter, ni des héros morts au combat, ni des martyrs. Il y a chez lui une réflexion fascinante sur la mort inutile. La mort inutile, en quelque sorte, de gens décédés dans leurs cellules et qui auraient pu se réaliser autrement. Gerhard Richter lui-même a fait le lien entre cette série hautement sensible, très politique, et le portrait peint exactement à la même date de sa fille Betty. Donc en 88, souvenez-vous, elle se retourne vers un monochrome gris, c'est-à-dire vers quelque chose en lien avec le passé sombre de l'Allemagne. Et donc, et j'en arrive là, on pourrait relier ce cycle sur la bande à Bader avec le corpus des photopeintures floutées des années 60. Je pense à Horst, le père de Richter. Plusieurs historiens ont souligné que les raisons de l'engagement armé des membres de la bande à Bader eurent certainement beaucoup à voir avec ce que ces membres ont considéré comme la complicité passive, entre guillemets, la complicité passive de la génération de leur père, une complicité vis-à-vis du national-socialisme. Et peut-être que Gerhard Richter, au fond du fond, les représente en enfants perdus d'une Allemagne dont les pères avaient perdu toute crédibilité à leurs yeux. Pour ajouter une strate de complexité, je vous montre Gudrun, la même. Gudrun Henslin, mais cette fois-ci peinte un an avant, une huile sur toile, et il s'agit d'un tableau abstrait en couleur. Donc cette toile préfigure le cycle des 15 toiles en noir et blanc. Et elle est entièrement travaillée au racloir. Sans le titre du cartel, il est absolument impossible de faire un lien avec le cycle en noir et blanc. Richter utilise une palette très vive, surtout du rouge, du noir. Donc je retiens. Je retiens que Richter utilise, aura utilisé, les deux modes d'expression, abstrait et figuratif. Et aussi le fait que c'est important, le fait que la peinture abstraite ne signifie pas nécessairement que la mise en image figurative soit impossible. Cette toile abstraite, cette évocation de Gudrun, fonctionnerait comme une analogie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Troisième tableau d'histoire. Septembre. Septembre. Une huile sur toile également conservée au MoMA de New York. Un tableau représente les deux tours, vous l'avez sur l'écran de rc.fr, les deux tours du World Trade Center de New York le 11 septembre 2001. Et Gerhard Richter utilise une photo à nouveau issue des masses médias comme source documentaire. Alors le tableau est daté 2005, ce qui est particulier avec ce tableau, c'est qu'après l'avoir peint, pendant 3 ans, Richter ne le montre pas. Il hésite à le détruire, il n'est pas vraiment satisfait. Et puis, au bout de 3 ans, il va trouver une idée et légèrement modifier le tableau. Il passe des coups d'un petit racloir, un peu comme si un avion amorçait un changement de trajectoire. Le 11 septembre, ce fut l'un des premiers grands événements suivis en direct à la télévision et à l'international. D'ailleurs, le format de la toile pourrait faire référence aux écrans de télévision. Voyez-vous, on aurait pu s'attendre à un grand format vertical, mais pas du tout. Les images du 11 septembre furent surmédiatisées, ce qui a entraîné une spectacularisation de l'image, et donc nécessairement, tout de suite, un côté voyeuriste ou une fascination morbide de la part du public. Et ça, Richter voulait absolument l'enlever de sa toile. Dans une vitrine de la Fondation Louis Vuitton, on pouvait voir la photo ou la capture d'écran qui avait inspiré cette toile. Généralement, quand Richter reproduit une image de presse, il la reproduit à l'identique. Or là, il avait fait une modification importante. La photographie représente la tour sud du World Trade Center, en partie cachée par la fumée de la tour nord, déjà frappée. Et sur la photo d'origine, on voit très bien l'explosion, dans des couleurs rouge-orangées. Et Richter supprime de la toile ces couleurs rouge-orangées afin d'enlever le côté spectaculaire ou voyeuriste. Cette photo se trouve dans son atlas, qui est une sorte de catalogue raisonné où il accumule toutes les photos qui pourraient servir pour l'inspirer. Donc, dans septembre, il a enlevé le côté spectaculaire. Et d'ailleurs, quand on arrive devant la toile, parfois c'est difficile de reconnaître les Twin Towers. Alors, je cite Richter. Bien que les images publiées dans les journaux m'aient bien entendu profondément choqué, je ne pensais pas qu'il était possible de peindre cet instant. Alors, je répète, je ne pensais pas qu'il était possible de peindre cet instant. Et certainement pas de la façon qu'ont choisi certains, avec le point de vue insensé que cet acte atroce était une sorte de happening ahurissant pour le célébrer comme une méga œuvre d'art. Donc je note le refus de l'esthétisation, la recherche d'un regard distancié, le refus de l'affect, comme s'il fallait rendre le spectateur moins captif de ses émotions. À une époque très anxiogène de surinformation et d'abondance des images, et Richter vient casser l'effet de voyeurisme. Alors, l'Américain Steve Reich, lui aussi, traite de l'histoire. Il est très, très attaché à son identité juive, et nous avions écouté il y a 15 jours le premier mouvement de Different Trends, Amérique avant la guerre. C'était, souvenez-vous, l'expérience heureuse, électrisante, de la traversée en train des États-Unis de Los Angeles à New York, avec sa gouvernante. Et il écrit que s'il avait vécu en Europe, à cette époque, pendant les années 40, en tant qu'enfant juif, ce sont des trains bien différents qu'il aurait probablement dû prendre, d'où le deuxième mouvement de cette œuvre majeure, intitulée « Pendant la guerre ». Et cette fois-ci, c'est un train sans retour qui part pour Auschwitz. Alors, techniquement, « Different Trains » est un quatuor pour cordes et bandes magnétiques. écrit en 88. Sur la bande magnétique qui sert de support à l'œuvre, il y a dans ce deuxième mouvement 22 fragments de phrases. Ce sont des témoignages de 3 survivants de la Shoah. Steve Reich voulait des paroles authentiques, des paroles vraies, et pas du tout un texte interprété par des professionnels. On a parlé de mélodie du discours, speech melody. Ces voix, ces sons font partie intégrante de la partition. Et en enchaînant ces courts propos, ces fragments authentiques, il parvient à retracer tout le processus d'élimination des Juifs. Il y a le sens de ces paroles, mais il y a aussi la manière dont elles sont dites. Et le plus fidèlement possible, les instruments du quatuor à cordes en concert, sur scène, viennent doubler les voix, en imiter le rythme, la tonalité. C'est leur premier rôle. Autre rôle, donner l'impression que le train avance inéluctablement vers une destination finale. Écoutez. Le train ralentit puis accélère et le quatuor va répéter cette formule immuable en variant le tempo pour créer une illusion de débit de train qui varie. On va avoir un changement constant de pulsation. Se superpose au son des wagons celui des sirènes d'alarme lancinantes et des sifflets. Autre donnée essentielle, la troisième, Steve Reich a fait enregistrer 3 autres quatuors sur la bande magnétique, ce qui crée une illusion acoustique, l'illusion d'une pluralité de quatuors à cordes. On en a 4 en tout, donc 3 sur la bande magnétique qui viennent doubler les paroles musicalisées et 1 en live. Le mouvement dure environ 8 minutes, vous allez entendre la fin. Europe pendant la guerre, les témoignages, je les ai sous les yeux et je vais vous les lire. Ils sont prononcés par 3 personnes, Rachella, Paul et Rachel. Alors, 1940, le jour de mon anniversaire, les Allemands sont entrés en Hollande. Les Allemands ont envahi la Hongrie. J'étais en CE1. J'avais un professeur, un homme très grand. Il avait des cheveux lisses et plaqués. Il a dit « Des corbeaux noirs ont envahi notre pays il y a plusieurs années. » Et il m'a désigné du doigt. « Plus d'école, tu dois partir. » Et elle a dit « Va-t'en vite. » Et il a dit « Arrête de respirer. » Dans ces wagons à bestiaux pendant 4 jours et 4 nuits, puis on a traversé ces lieux aux noms étranges, des noms polonais. Beaucoup de wagons à bestiaux là-bas. Ils étaient remplis de gens. Ils nous ont rasés. Ils nous ont tatoué un numéro sur le bras. Flames going up to the sky. It was smoking. Des flammes montaient vers le ciel. Ça fumait. Vous ne capterez que quelques mots qui surnagent. À la toute fin, le temps semble s'arrêter sur les dernières paroles. Flames going up to the sky, it was smoking. Des flammes montaient vers le ciel, ça fumait. Le quatuor à cordes cesse de jouer le motif du train, omniprésent, répétitif jusque-là. Les mots flames, smoking, sont répétés. Et il y a une dislocation intégrale, harmonique et rythmique. Et puis le silence, un décrescendo très anxiogène. Interprété par le quatuor Kronos chez Nonesuch 1989. Une œuvre qui combine témoignages historiques et musique. Qu'allait faire la peinture? Birkenau 2014, huile sur toile, un cycle de quatre peintures abstraites de Gerhard Richter. On a voulu à tout prix expliquer le devenir abstrait de la série Birkenau par le fait que l'iconographie des camps de concentration était irreprésentable, impeignable. Mais je m'interroge. En 2011, Richter lit un livre qui va être un déclic pour travailler en peinture sur le sujet de la Shoah. Ce livre, c'est « Images malgré tout ».« Images malgré tout » de Georges Didi Huberman, un historien d'art et philosophe français, le livre ayant été traduit en allemand. Dans ce livre figurent quatre photographies qui ont été prises secrètement par les détenus du camp de concentration Auschwitz, Birkenau. Ce sont des reproductions recadrées des quatre photos qui était dans la rétrospective de la Fondation Louis Vuitton. 4 images prises clandestinement au crématoire d'Auschwitz en août 1944 par des membres du Sonderkommando, des déportés chargés par les SS du fonctionnement des chambres à gaz. La pellicule parvint à la résistance polonaise dans un tube de dentifrice. Et l'une de ces images, vous l'avez sur l'écran de rc.fr, montre des corps gazés que l'on brûle. Ces photographies sont donc des images en soi. Et Richter veut reproduire en peinture ces photographies avec la technique de la photopeinture. Donc il procède à la projection des images sur des toiles de très grand format. Il fait les croquis. Mais après les croquis, il s'est arrêté et n'est pas passé à la mise en peinture. Il a utilisé la couleur, la matière, hein, de manière abstraite à l'aide de la technique du racloir, en venant recouvrir, engloutir ces dessins qui résultaient de la projection agrandie des images sur l'étoile, étaient donc exposés dans une même dernière salle de la rétrospective, les 4 tableaux abstraits, en face, 4 miroirs gris qui allaient refléter les tableaux et qui reflétaient également les spectateurs à l'intérieur des tableaux dans une idée de souvenir et de mémoire. Et au bout de la salle, il y avait les 4 photographies sources présentes. Ce cycle, c'est donc un peu une peinture qui réfléchit sur l'irreprésentable. Mais on peut dire autre chose. Ces 4 abstractions font réfléchir à ce qui se passe sous la peinture abstraite. Et c'est pour cela que le choix de l'abstraction est peut-être beaucoup plus fort que le figuratif ou la visualisation de l'horreur des camps. Je cite Richter. « Ces 4 photos sont si « bonnes », entre guillemets, donc si « efficaces », que je ne peux que les laisser telles quelles. On peut les décrire, leur dédier une musique, ou quand cela se passe bien, leur dédier une peinture abstraite. Après ce cycle, Gerhard Richter fera une dernière série de tableaux, puis il s'arrêtera de peindre en 2017, et la dernière série n'a absolument rien à voir. Elle était beaucoup plus vive, colorée, à la limite d'une palette néon. Richter, souvenez-vous, c'est un peintre qui change très rapidement. Aujourd'hui, il dessine à Cologne. C'est un monsieur très âgé aujourd'hui. Nous allons clore ce cycle d'émissions par une pièce chorale d'Arvo Pärt, 3 petits bergers de Fatima, pour chœur mixte a cappella, créé en 2014 et dédié à Gerhard Richter. J'ai appris vraiment tout à fait récemment que Pärt et Richter s'étaient rencontrés en Suisse à l'occasion d'une grande exposition Gerhard Richter à la Fondation Beyeler à Bâle. Le compositeur qui s'était rendu à Fatima au Portugal, quelque temps auparavant, avait eu l'idée de la courte pièce que vous allez entendre. Elle dure 1 minute 30 et je le cite pour la dernière fois, en lui disant adieu et en le remerciant. En 2012, je me suis rendu à Fatima, au Portugal. Naturellement, ce lieu avait pour moi depuis longtemps une signification spéciale. Cette histoire émouvante des 3 jeunes bergers auxquels la Vierge Marie était apparue en 1917 dans un pré de leur village, mais restée présente à l'esprit après mon retour chez moi. Et 2 ans plus tard est née cette petite pièce chorale. La pièce est radieuse et doit transmettre cette joie que les 3 jeunes bergers ont dû, à mon avis, éprouver. À peine l'écriture de la pièce achevée, j'ai su à qui la dédier et où elle devrait être entendue pour la première fois. Donc l'œuvre fut créée en 2014 par l'ensemble vocal Vox Clamantis à la Fondation Beyeler C'est une œuvre comme une prière d'enfant pleine de joie et de confiance. C'est aussi une fort jolie pièce avec son rythme ternaire en 6-8. Au revoir.
Vous venez d'entendre Art et Affinité dirigé par Marie-Christine Lanier, émission préenregistrée le 28 février 2026 et diffusée pour la première fois jeudi 5 mars 2026 de 10h à 11h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pourrons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.